ce podcast participe au Podcast Mania les 5 et 6 novembre au Geekfest Montréal. Information geekfestmtl.com.
Avertissement. Cette émission contient du contenu complètement ridicule. Vous êtes avertis.
Hello à tous pour une autre émission des informateurs sur les ondes de puissance maximale. Aujourd'hui, on est encore en train de faire l'enregistrement au Extra Life organisé par Zero Lag Gaming. Ce soir, j'ai deux invités magiques. Ils sont magiques tous les deux, chacun et de chacun. Et ils ont des secrets à nous révéler. Je suis accompagné de...
Testeur Alpha.
Et de...
Et de Jew.
Les deux magiciens du temps. C'est magique, hein. On vous reconnaît aussi pour vos grandes prestations dans le concert de King Burley.
Oui, oui, on me le dit souvent d'ailleurs. Surtout quand t'es là.
Ah oui, ben c'est sûr que je suis là. Je vous force à m'embarquer sur le stage pendant le concert.
Oui, écoute.
Mais tu sais, la sécurité qui vous sort, c'est pas de ma faute non plus.
Non.
Non, c'est juste pour dire que vous avez été sur le stage, mais on parle pas de la suite.
Salut d'être plus furtif.
C'est bon. Alors, toi, Tester Alpha, qu'est-ce que tu fais pour ceux qui te connaissent pas?
Moi, je fais des critiques de vieux jeux rétro qui sont pas très bons sur YouTube.
OK.
Je mets ça dans un univers avec des sketchs absurdes, avec un humour un peu à ma sauce. Peut-être un mix entre François Pérusse et Denis Drolet, je te dirais.
Ah, OK. De l'absurde, de penser, c'est réfléchi.
Ouais, c'est bon. C'est ça, ouais. T'sais, deux absurdes devient un réfléchi.
Oui, c'est des mathématiques.
C'est ça, exactement. Deux négatifs devient un positif, donc ouais. Je mise là-dessus, moi.
Ouais, c'est bon. Hey, c'est vraiment magique, comme j'ai dit au départ.
Et
toi, Joe?
Moi, ben, je fais beaucoup d'écriture, des éditoriales ou des petits textes d'opinion, tranches de vie, à saveur geek. Je travaille pour l'entrée du geek, pour les accros des jeux. Je collabore à l'occasion aussi avec Retour vers le rétro. Et prochainement, j'aimerais bien partir mon projet de chaîne YouTube à moi.
Yeah! Ça fait une exclusivité ou...
Non, j'en parle un petit peu, mais il y a juste quelques personnes qui sont dans le secret de qu'est-ce qui se passe à l'interne.
Ah, OK, c'est bon. Alors, on va savoir plus tard. Alors, pour ceux qui viennent se joindre à nous, les informateurs, qu'est-ce que c'est? On est là pour vous informer sur plusieurs sujets et même nous, ça va nous surprendre ce qu'on va vous dire. Alors, le but est simple, on est chacun assis à une table et on va faire chacun notre tour un sujet sur une chronique qu'on va piger sur Wikipédia. Et on va faire en sorte de vous montrer l'information telle qu'elle est et c'est à vous par la suite de fouiller pour voir si c'est vrai ou pas ce qu'on vous dit. Alors, pour commencer l'émission, si vous êtes bien prêts, on va y aller avec la chronique Wiki Fromage.
Yeah!
Alors aujourd'hui, pour la chronique Wiki Fromage, j'ai pour vous un sap gruyère fumé.
Il est où ton fromage?
Il est sur mon paquet.
Ah, oh, il y a du fromage pour de vrai. Je pensais qu'il niaisait.
Non, non.
Ah, c'est mystérieux.
Ouais, c'est très mystérieux comme fromage. J'en ai préparé un petit cube pour chacun.
Ah, oh, c'est donc bien
gentil. Et c'est même emballé uniformément.
Avec beaucoup d'amour.
Oui, c'est fait avec beaucoup d'amour. Je suis un grand utilisateur de Saran Wrap. Alors, ouais. Pour commencer.
Est-ce qu'on le gobe tout là, ou...
À chacun votre tour. Ben, Joe a commencé, alors je vais dire... quelle sorte de page Wikipédia tu lirais en mangeant ce fromage?
Ben, écoute... Je serais sur la page de Hornbeck. Ça me fait penser à... Je sais pas, il y a un petit goût corsé qui me fait penser à cette petite ville d'Allemagne qui est située dans le sud-est du pays, qui est vraiment comme... Je sais pas, mais le petit côté fumé... Non, je veux pas faire de blagues de l'Allemagne et de fumer, c'est pas bien. Non. Mais non, un petit côté champêtre, un petit côté rustique, puis qui me fait penser ça aux petites campagnes de l'Allemagne, un petit pays, t'es tranquille, pas trop... c'est sûr que ça me fait pas penser à quelque chose d'italien ou ce que c'est un peu comme « Oh, fancy » puis tout. Là. C'est vraiment comme... Tu sais, je vois vraiment le petit côté, je sais plus répéter, le petit côté rustique, le petit côté bois, le petit côté forêt. Là.
C'est le petit village caché dans une grande nation du monde des fromages.
Oui, alors, ben ouais, ben c'est rare que je goûterais des fromages d'Allemagne. Mais celui-là, je te dirais que je serais pas surpris s'il viendrait de là.
Ah, On va investiguer sur le sujet.
Ouais. Ça fait plein de sens.
Et toi, testeur alpha, quelle sorte de page wiki tu lirais en mangeant ce fromage?
Attends, je vais lui goûter un instant. Oh, moi.
C'est magique.
Ce fromage me fait penser à David White.
Ah oui?
Oui, moi je te dirais que quand je mange ce fromage-là, je pense à la couleur blanche.
Oui, comme David.
Comme David.
Comme l'étoile de White. David éclairée dans la nuit.
Parce qu'on sait tous que white en anglais veut dire blanc.
Oui.
Donc tu vois le lien.
Oui.
Écoute, en plus que lui, cet homme-là, il a vécu à Glasgow.
À Glasgow, oui,
on
oui,
comprend?
Oui.
Et puis, moi, quand je goûte un fromage comme ça, le lien se fait directement.
C'est ça. Tu le manges, tu
fromage
t'entends
blanc,
Glasgow, Glasgow, Glasgow,
Glasgow, Glasgow à chaque...
C'est le nom du manchement, oui.
Exactement. Et puis, en plus, j'ai une image ici de M. David White et la forme de ta coupe de fromage me rappelle étrangement sa coupe de cheveux.
OK. Alors, il a une coupe fromage.
Exactement. J'ai deux excellentes raisons d'être influencé par ce morceau de fromage et penser à David White.
Ah, merci beaucoup. Et d'accord. Moi, je vais y aller à mon tour avec ce fromage qui était beaucoup plus chaud que quand je l'ai acheté.
Ça, c'est la loi de Newton qui dit ça, là.
Ouais, ouais, c'est la loi de Newton. Elle est partout, même dans le fromage.
Ben ouais.
Alors, moi, personnellement, je vais déguster encore un tout petit peu. Je déguste encore.
Tu travailles tes saveurs, là.
Ouais. J'essaie de capter chaque ingrédient qui a servi à la fabrication du fromage.
Ça se développe, ça. C'est un art.
C'est comme le vin. Ou le thé.
Ouais, ça peut être un vin acheté en thé. Ou du thé au fromage.
Du thé au fromage.
Ce fromage-là me fait penser à Let It Bleed. C'est le 8e groupe du groupe anglais de Rolling Stones. C'est un groupe qui est quand même assez connu là-bas et mondialement. Et pas autant que le fromage, par contre. Mais ce qui me rappelle eux autres, c'est que le sang qui est au cœur du fromage et de notre corps. Moi, je sens du fromage à l'intérieur de mes veines chaque fois que je le mange. Je le mange et il se désintègre tout de suite en atomes qui va parcourir mon cœur entièrement. Le fromage est une passion qui se valorise par son odeur, son goût, sa texture.
D'où le lien direct avec les Rolling Stones.
Oui, les Rolling Stones. Qui
leur musique se feel.
Oui, c'est leur musique aussi. Je parlais de la chanson, mais je parle aussi du groupe en vrai parce qu'ils aiment beaucoup le fromage. Mick Jagger, on l'a reconnu comme étant le mangeur de fromage numéro 1 au monde en 1833. C'est aussi lui qui a inventé les hamacs, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui.
Ah non, ça sort du cadre, là.
Ouais, ouais, ça sort
comme
du cadre.
Comme vous savez, on vient souvent scraper le podcast pendant qu'on est à l'événement Extra Life. Fait que pour Christian, vu qu'il d'habitude nous donne toujours des cadeaux pourris, j'ai décidé de venir donner un cadeau pourri pour Christian.
Ah,
donc, j'y offre un paquet de cartes de hockey avec Patrice Bergeron des Bruins de Boston. Le jour du match en action et Matt Duchesne déjà ouvert juste pour toi.
Hey Matt Duchesne, merci Big Ben. Hey,
une chose carte de hockey juste pour toi.
Une chose que t'es venu à l'émission puisque je t'aurais invité une deuxième fois.
Oh! Oh!
Mais non, t'es invité trois fois.
Yeah!
Hey, merci beaucoup. Alors, c'est tout ce qui conclut notre chronique rocambolesque de dégustation au quai fromage. Alors, on s'occupe pour une courte pause et on vous revient après pour le premier tour de table. Alors, re-bienvenue aux informateurs sur les ondes de puissance maximale, un épisode qui a été enregistré au Extra Life, organisé par Zero Lag Gaming. Alors, on va y aller pour le premier tour de table. Alors, à tour de rôle, on va piger un sujet sur Wikipédia et on va vous parler de cette chronique comme si on l'avait tout le temps vécu. Alors, moi, pour la première chronique, je vais lancer le bal et je vais vous parler de... Xarnilask. Alors, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est ça, parce que...
Non, moi je le connais.
Ah, tu le connais, qu'est-ce que c'est correct. Alors, garde tes propos pour plus
c'est
tard,
bon,
tu peux poser des questions pour voir tester mes connaissances.
Je vais faire comme si j'étais innocent et je te laisse m'apprendre la chose.
Alors je ne garderai pas de mystère cette fois-ci, je vais vous le dire sincèrement, c'est un village de la Mima de Brzezek.
Ben oui.
C'est en Pologne. Pour ceux qui connaissent la Pologne, c'est un pays dans le monde. Et ceux qui connaissent le monde, ben vous êtes sur la Terre, probablement comme nous. Et si vous n'êtes pas de la Terre, alors parlez-en à tout le monde, parce qu'on aimerait bien ça savoir s'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre.
T'as et, tout à fait raison jusque-là.
Oui, c'est très important. Alors, on a Charles qui vient nous dire son avis sur Xarnilas.
Moi, j'ai été à l'école avec.
Ouais, c'est...
Ben sympathique comme personne.
T'as été à l'école avec un village au complet?
Oui, au complet.
C'est malade, ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que t'es un état?
Bon, je peux être un état si tu veux.
T'es une émotion ou un pays?
Les deux.
Ah, ok, c'est correct.
Je suis le pays de l'émotion.
Oh, hey, c'est poétique.
C'est poétique, ça.
Hey, c'est malade.
Tu peux être un sachet, Christian?
Parce que Big Ben m'a donné des cartes tantôt.
Ok, t'as-tu pogné un joueur recru?
Ben, j'ai pogné des noobs.
Ouais. Patrice Bergeron, il joue pas au hockey depuis... Par exemple, t'as Star Alpha, il connaît ça le hockey, lui.
Moi, je suis un professionnel de hockey.
Ah, ok, alors
t'as-tu pogné la carte Fernandez-Rodrigo?
Un indien arabe,
ah, c'est intéressant, ça, c'est intéressant. C'est pas pire, mais c'est parce que t'as pas la carte recrue, tu sais, ça
non,
vaudrait
je,
plus.
Non, je l'ai pas, c'est une carte de starter, puis ben, j'ai juste des cartes de pro.
Là. Ah, ben là, écoute, faut on commencer fait, quelque part, tu sais.
On fait ce qu'on a. Mais bon, pour revenir pour Xarnilas.
Ben oui.
Ça, c'est la population s'élevait approximativement à 80 habitants en 2006. Alors, on peut se dire que c'est pas gros comme village. C'est peut-être une famille, deux familles, trois familles, mais sont toutes consanguins. Quand le pays a été développé dans les années... en 75, on peut se dire qu'il y a peut-être deux personnes, mais avec le temps, ça s'est mis de grossir de plus en plus pour devenir un pays renommé.
Mais si c'est un pays consanguin, ça augmente les risques de malformations à la naissance. Donc, s'il y a des siamois, est-ce que ça compte pour une personne ou deux personnes?
Eux autres, ils ont leur propre système, c'est pour deux personnes, mais ils ont juste un droit de vote.
Ah.
Tant et aussi longtemps qu'ils sont la même connectés ensemble.
Ah, mon dieu, mais s'ils s'ostinent les deux, comment qu'ils font pour voter?
Ben, la plupart du temps, ils ont de la misère à se frapper eux autres-mêmes parce qu'ils ressentent la douleur de l'autre. Alors, les chiens, ils se règlent pas mal rapidement. Et y a aussi leurs grands-parents qui leur montrent aussi comment vivre, comment bien vivre, parce que les parents, bien souvent, sont perdus dans un monde de travail et acharné de jour et nuit pour essayer de payer les opérations et tous les traitements pour leur enfant
ben
malade.
Ben oui, ça fait du sens.
C'est très compliqué dans ce pays-là, mais c'est pas mal un sujet de tabou. Je dirais que l'information est pas mal juste pour ceux qui visitent la place et non pour ceux qui veulent en savoir plus vu Wikipédia,
okay.
N'importe quoi. C'est vraiment restreint comme information qu'on peut vivre à ce pays-là.
Mais pourtant, je trouve que tu as très bien décrit ce charmant village.
Ah oui, ben un jour, j'aimerais ça le visiter et aller voir de mes propres yeux à quoi ça ressemble.
Ah, mais tu pourrais, tu sais, moi, pendant que j'étais au cégep, j'habitais à Montréal, puis je le voyageais matin et soir pour travailler, temps partiel.
Ah ouais, oui.
C'était pratique. Le petit village, c'est facile à parcourir. Puis bon, ça se passe bien.
Et si t'es chauffeur de métro, ben, t'as toute la population entière qui peut rentrer dans ton métro.
Ben, exactement. Non, c'est le monde idéal. C'est moi qui te le dis.
Les villages de 80 personnes et moins sont les meilleurs. C'est ceux qui ont un meilleur avenir, c'est ceux qui ont un plus haut PIB. Et c'est eux autres aussi qui sont les récolteurs de la semence, de l'amour et de l'amitié dans le monde.
Ainsi que de la subtilité.
Et la subtilité, ben ça, c'est un sujet d'une autre chronique.
Connex.
Alors,
on n'abordera pas ça.
Qui concluait ma chronique sur Xarnilas. Et on va y aller avec Tessa Alpha qui nous a préparé quelque chose de rocambolesque aussi. J'utilise trop le mot rocambolesque aujourd'hui, j'abuse.
C'est ton mot du jour.
Alors moi, je vais vous parler de Junker Afrikaner. C'est un mot en note J-R-R-O. Et c'était un chef de la tribu des Ourlam, à ne pas confondre avec le chef de la tribu de Dana, n'est-ce pas?
Ah non,
c'est non, il faut faire attention. C'est deux personnes complètement différentes. C'est ça, exactement, parce qu'il trouvait que dans la vallée de Shankar Afrikaner, ça sonnait moins bien.
Mal, ça
alors,
mal.
Suite à ça, les membres du groupe ont décidé de faire dans la vallée de Dana, mais on s'éloigne du point.
Oui, c'est ça. C'est on s'éloigne du sujet point. De notre chronique d'un autre jour.
Exactement. Donc, lui, il est né en 1785, et puis...
est-ce qu'il est mort?
Bien, malheureusement, oui. On comprend que... il a vécu heureux parce que son travail, lui, c'était d'acheter des chapeaux et de les tester, mais pas sur lui.
Okay, c'est un testeur de chapeaux.
Exactement. C'est un testeur de chapeaux, mais pas sur lui, parce que lui, il avait peur. Il était superstitieux, tu comprends?
Okay,
il pensait que s'il mettait son chapeau, ben les chapeaux allaient prendre une petite partie de son arme à chaque fois. Fait que s'il testait 10 chapeaux, ben tu comprends qu'il perdait beaucoup
c'est
de son arme.
Un pourcentage incrémentiel.
Exactement. Donc, lui, il avait pas le choix. C'était pour ça qu'il était le chef de la tribu, tu comprends? Il s'attirait comme ça des membres de la tribu. Puis, ses chapeaux, il les faisait porter à chacun des membres de sa tribu, mais un petit peu par petit peu, pour pas trop les maganer, tu comprends?
Oui.
Puis, étant donné que lui gardait toute son arme, ben ça allait bien. Il pouvait encore plus étendre son emprise sur ses fidèles qui, eux, perdaient leur arme un peu à chaque fois à cause des chapeaux.
Alors, toi, en tant que testeur, tu dois connaître quand même le domaine de la testerie.
Un petit peu. La testerie, c'est quelque chose de très large, tu sais, parce que tu peux tester beaucoup de choses. Tu peux tester des jeux vidéo. Ça, c'est ma spécialité.
Ouais.
Mais tu peux aussi tester les porte-patios.
Okay.
Tu peux tester les chapeaux. Hein? Monsieur Afrikaner était un grand adepte. Mais tu peux aussi tester, tu sais, l'été, quand il fait chaud, là, les gros tapis de plastique jaune que tu mouilles puis tu glisses.
Ah, tu glisses ça, les bananes.
Ouais, exact. Ouais, tu peux glisser ça aussi. Tu peux tester ça.
Tu peux avoir des brûlures sur les genoux.
Oui. C'est pour ça que ça prend un testeur même bien aguerri.
À chaque testeur, son risque.
Exactement. Qui connaît bien son affaire parce que c'est pas pour les doux.
Non, c'est vrai.
Je pense que ça fait un bon topo.
C'est un bon topo. Ben, je te l'accorde, c'est un très bon sujet.
Excellent.
Alors, je te remercie beaucoup, Tester Alpha. Alors, on va y aller avec Drew qui va nous parler d'un autre sujet qui va nous émerveiller.
Ben, moi, je vais vous parler de la Pantera. La Pantera, c'est une région du Brésil. Qui est une petite section, dans le fond, sur le bord de l'océan. Le Brésil, c'est Atlantique.
C'est Atlantique.
Oui, c'est sur le bord de l'océan Atlantique.
Je pensais à un autre océan.
Dans le fond, c'est une petite région portuaire, un petit village.
Ah, OK. De plus ou moins 80 habitants?
Un petit peu plus. On arrive dans les 150.
OK. C'est plus rustique, rendu là.
Oui, c'est rustique, mais vu que c'est la pêche et tout,
Ils vivent à l'ancienne des deux familles.
Ouais, ils vivent surtout de leur prise. Ils pêchent la nuit, ils vont faire sécher leur poisson le jour. C'est les femmes qui font sécher le poisson et tout ça. Les hommes vont à la pêche. Parce que si on se risque d'aller pêcher le jour, dans le fond, les vagues sont trop grosses. Puis ça peut être
dangereux, c'est ça.
Ouais. Surtout qu'on voit mal parce que c'est une section qui est toujours pleine de brouillard. T'sais, c'est comme au croisement de deux climats. Donc, il y a vraiment des micro-cellules.
Il y a toujours des tornades, des ouragans,
des catastrophes. Non, en fait, il parle vraiment juste de brouillard, mais c'est vraiment épais. Il n'y a pas comme d'informations, je te dirais, au niveau des grosses intempéries.
Dans le fond, on peut dire que les gens, ils ne voient pas grand-chose qui sort dehors. Ils sont un peu comme à l'émission Dans le noir avec Stéphane Rousseau.
Oh ouais, non, ça, mon doux, ça fait longtemps, ça. Puis, il n'y a pas un terrain, dans le fond, il y a... un petit pont qui les relie à une petite île, puis il y a des générations de... Il y a une famille qui garde le pont, puis c'est tout le temps la première née de la famille qui garde le pont. Puis c'est elle qu'on appelle la Pantera, donc de là, le nom du village. C'est vraiment...
Les gardiens du pont.
Oui, il n'y a pas grand-chose qu'ils font. C'est plus là, c'est rendu pour préserver le patrimoine, comme le folklore, si tu veux, de la région. Mais vraiment, avant, c'était parce que la petite île était protégée. Parce que dans le folklore, c'est ça, ils comptaient qu'il y avait comme des fées, des sirènes, tout ça, sur le bord.
Ah, OK, OK. OK, il y avait de la magie, de... un petit peu de magie, oui. Ouais, ouais,
mais c'est-tu de là que Gandalf le Gris s'est inspiré de son fameux « Vous ne passerez pas! »
Non, je pense que ça, c'est l'histoire des trois boucs avec le troll qui ne veut pas les laisser passer.
Ben voyons chose. Donc, ça serait parfait, là, Pantera, ouais, vrai, ça expliquerait.
Non, mais les Pantera, ouais. Ils sont reconnus pour être des jolies filles. Ils font toutes partie de la même famille, puis c'est vraiment comme tout le temps, ça s'arrange, puis ils sont toutes belles, puis toutes. C'est comme un... Comme je t'ai dit, c'est plus comme la gardienne du pont à cause des filles, puis tout, que dans les légendes du folklore de cette région-là.
Pis. D'accord.
Mais je te dirais qu'à cette heure, c'est vraiment comme pour préserver l'histoire, puis tout ça.
Donc, là, tout n'est pas lié, nécessairement.
Non, non, tout n'est pas lié avec le
Seigneur des Anneaux.
Il va falloir que tu décroches, je pense. Fais ton deuil. Donc, puis c'est ça, dans le fond, puis à chaque année, aux alentours de la pleine lune de juin, ils font comme une grosse fête pour honorer, si on veut, la Pantera, la gardienne du pont.
La Pantera, est-ce que ça peut être un bon titre de chanson, ça?
Non, c'est plus un groupe de musique, ah, okay. Pantera. Non, non, c'est pas pareil.
C'est pas les mêmes.
Tout Pantera, n'est pas lié.
Ah, OK.
Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a des chants et tout quand il y a la petite fête folklorique, mais j'ai pas les paroles présentement.
Ah, c'est pas grave, ben, on invite les auditeurs à faire des recherches et de chercher la Pantera pour trouver les paroles sur Internet.
Donc, c'est ça, c'est cette petite région-là. Encore très axée sur le folklore, sur leur patrimoine historique et tout, mais vraiment une petite section assez recluse.
Une destination voyage de choix.
Oui, mais par exemple, vu que c'est vraiment comme éloigné, je pense qu'il va falloir s'organiser une petite expédition, quoi que ce soit. Je pense pas que les aéroports se rendent là. Donc
non,
c'est
non,
vraiment...
il faut se louer un Zodiac.
Pas encore.
Peut-être un petit bateau, quelque chose, pour vraiment aller sur la côte. Là.
Un deltaplane, on se rendrait dessus, tu penses?
Ben, si le village est petit et portuaire, vraiment en bordure de l'eau,
il faut un très long quai pour atterrir.
Ouais, il va falloir un gros quai, genre. Ouais. Ouais, non, c'est ça.
Alors, il faut deux trucs pour aller là-bas, un grand quai et un deltaplane. Alors, je te remercie, Joe, pour cette chronique fort intéressante. Et on se quitte pour une petite pause et on revient à la suite pour le deuxième tour de table. Alors, à tantôt, tout le monde.
À tantôt!
À tantôt!
À tantôt! Ouais, vous êtes qui, vous, ça? Alors, re-bienvenue aux informateurs, ce sont de puissance maximale. On est là pour le deuxième tour de ronde, parce que à date, ça va très bien. On a des sujets qui nous instruisent et des sujets qui vont aller vers un avenir meilleur sans nous. Aujourd'hui, hey, on est rendu loin, là, on est plusieurs jours plus tard. On va y aller avec le tour mystère. Le tour mystère, ça joue avec un dé. Là, j'ai lancé un dé pour se faire un petit son, mais je sais pas si je le pogne bien. C'est pas grave. Le but est simple, on va faire encore des chroniques chacun de tour, mais on va avoir une petite variante qui va être pigée par le 2 et je vais vous expliquer chacun. Si on pogne le 1, ça va être une chronique de drame. Si on pogne le 2, ça va être une chronique mystère. Si on pogne le 3, ça va être une chronique sportive. Si on pogne le 4, ça va être une chronique technologique. Si on pogne le 5, ça va être une chronique météo. Ou si on pogne le 6, c'est au choix. Alors ça peut être des choix qui sont là ou au choix n'importe quoi improvisé. Trop impressionnez-moi. Alors, moi, je vais vous parler quand même d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui va être chronique technologique, parce que je parle de Émile Danoen. Alors, qui est ce Émile Danoen? Alors, à part d'être un écrivain français, je peux vous dire beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est lui qui a inventé les micropuces informatiques, c'est lui qui a inventé les clés USB, c'est lui qui a inventé les colliers en méthane, et c'est aussi... C'est lui aussi qui a inventé les routes en terre cuite et c'est aussi le grand inventeur de la chaîne TQS. Les collets à méthane, c'est une belle invention.
Ça sent drôle, par exemple.
Non, c'est pas que j'avais compris, les colliers. Les colliers en méthane.
C'est ça que j'ai dit.
Ah, c'est ça.
J'avais dit de pas prendre le Monster.
Non, ça, c'est le Monster qui fait pas.
Ça va, est-ce que tu vas faire pipi?
Continue dans ta pertinence, okay, j'adore.
C'est bon. Alors, Émile Danoen, ce grand inventeur de tous, qui nous a amené, on peut le voir ici à Paris sur la photo, il a une petite moustache, sa moustache qui l'aide à s'inspirer sur plusieurs sujets. À chaque fois qu'il a un problème dans la vie, rien ne l'empêche de le surpasser. Émile Danoen, ce grand inventeur, cette inspiration pour le monde, pour l'avenir et pour tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, Émile Danoen. Émile Danoen mérite, en plus des chansons, des vidéoclips sur l'histoire de sa vie, sur sa naissance. Ce qui est vraiment triste dans la vie d'un Danoen, Émile Danoen, c'est qu'il est décédé le jour de sa mort. Le 7 mai 1999, à l'âge de 19 ans.
Ça fait beaucoup de neuf.
Oui. On l'invente aussi, on dit que c'est un grand multiple de neuf.
C'est son surnom d'inventeur, le grand multiple de neuf.
Le grand multiple de neuf, même son numéro de téléphone, c'était 81. Et lui... Il est décédé à Meudon. Quand il a su que TQS allait pas bien les affaires, ben il s'est dit, un moment donné, faut se retirer. Ben il s'est tiré.
Il avait mal compris. Lui, ouais. Il a juste compris le tirer.
Se retirer. Il a mal compris, mais c'était pas sa plus grande invention, disons. Mais on ne l'oublie pas pour tout le reste, par contre. Parce qu'en 1999, avec toute la technologie qu'il avait dans sa vie, on peut dire que le bug de l'an 2000, il en avait extrêmement peur. Il s'est dit, ça pourrait être le crash de toute ma vie. Alors, aussi bien ne pas aller plus loin. Il était un peu heureux, mais il réussit quand même à charmer la demoiselle.
Oh!
Mais il charmait aussi des messieurs, parce que les messieurs pouvaient aussi être charmés par lui, mais même s'il n'était pas intéressé, c'était son choix. C'était un grand être humain. Ah, on voyait que tout le monde ici applaudit ce grand
Émile Danoen. Exactement.
Émile Danoen, je peux vous dire une grande date marquante qui l'a marqué dans sa vie, c'est en 1956, l'homme qui héritait d'un meurtre. Ça, c'est un livre qu'il a écrit dans l'histoire de son père qui avait été impliqué dans l'héritage d'un meurtre. Alors, c'est aussi simple que ça. En fond, c'est l'autobiographie de son père. Mais il a nommé...
Vas-y, continue, ça me passionne ton histoire.
Il a signé l'autobiographie de son père. Parce que son père savait pas écrire, il savait pas lire non plus. Alors c'était un peu compliqué de faire une autobiographie, alors il l'a fait à sa place. Mais c'est seulement 14 ans plus tard qu'on a trouvé le poteau rose et on a découvert que c'était pas son père qui l'avait écrit, mais que c'était notre grand ami Émile Danouin, l'homme moustachu au regard perçant et au chandail brun. Et je crois que je fais pas mal tout de ma chronique technologique. Alors, avez-vous des questions sur le sujet?
Non, t'as vraiment fait de tout, tout et partout, je te dirais. Mais est-ce que tu sais si Émile Danouin, il travaillait avec du Apple ou du PC?
Ah, lui, il a tout le temps détesté la guerre entre les deux, puisqu'il se disait que tout le monde doit être égal. Alors, lui, il refusait d'utiliser cette technologie et l'informatique en général.
OK.
Alors, lui, il créait des trucs, il donnait des idées. C'était un idéateur, dans le fond. Ah. Mais lui, il savait que dans son cœur, il était plus Linux. Mais il n'osait pas trop en parler. Mais tu sais, vu que le cœur de Unix a été servi pour faire les Macaster, je pense qu'il serait déçu s'il est encore vivant aujourd'hui.
Ah. Et on le comprend.
Oui. Alors, je vais y aller avec Drew, qui a peut-être un dé à lancer et une chronique à nous proposer.
Pourquoi pas? Donc, je vais vous parler du grand drame de Léaz. Léaz étant une commune française dans la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Là, on remonte à vraiment très longtemps. Dans le fond, c'est un feu de broussailles qui a malheureusement dévasté le village au complet.
Au complet.
Au complet.
Même les habitants ont eu le temps de s'évanouir.
Non,
de s'évanouir.
Non, c'est en pleine nuit. Donc, la gens qui dormaient, il y en a quelques-uns qui ont pu s'en sauver.
Okay.
Mais c'est vraiment un drame qui a coûté la vie à plusieurs enfants. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très lourd à porter pour les Français de la région, parce que c'est jamais le fun hein, quand les enfants meurent en masse. Et là, on se retrouve.
Ils ont posé qu'ils ont quand même connu Émile Danouin aussi.
Hein. Ouais, non, ben c'est ça, là. Ça fait beaucoup, là, une année. Mais non, donc c'est ça, un drame d'un incendie de masse qui a été causé par un morceau de vitre.
Ah.
Ben, en tout cas, il n'y avait pas de cause criminelle. C'est vraiment comme il faisait chaud, le soleil, tout ça. C'était probablement soit la vitre qui aurait comme allumé la broussaille avec le soleil et tout, la chaleur. Donc c'est vraiment un accident tout bête. Mais là, depuis ce temps-là, ils sont vraiment axés sur la non-pollution. Ils font vraiment attention.
Okay, ils ont peur des vitres aussi, sûrement que les maisons
n'ont
pas de
fenêtres. Ils veulent éviter qu'un autre accident. Donc, que notre accident se répète, parce que là, ils étaient plus beaucoup après cet incendie-là. Quasiment toute la commune était décédée dans l'incendie. Plus d'enfants, plus de jeunes, donc la relève, c'était pas vraiment...
Non, c'est ça, ils ont pas eu le choix, sûrement, d'ouvrir la porte aux migrants.
Oui, non, ça a toujours été une section vraiment très accueillante de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ça n'a pas été vraiment compliqué. Puis surtout que là, ils voulaient justement, je n'ai pas le terme repeupler, mais ils voulaient inciter le monde à venir pour avoir un village conséquent. Donc, avec les terrains qui étaient plus, moins
fermenté,
chers.
Fermentés.
Non,
OK.
C'est pas mauvais terme. Oui, il y avait des fermes, mais c'était plus comme... Vu qu'il y avait de la terre libre, ben les gens, ils les vendaient pas cher, vraiment pour inciter les gens à revenir pour repartir la dynamique du village. Non, mais depuis ce temps-là, ça va bien. C'est sûr qu'à chaque année, ils ont une commémoration pour l'incendie de Léaz.
Oui, le grand incendie qui a fertilisé les terres quand même.
Oui, bien, c'est sûr que oui. Hein. On va se le dire, de chaque tragédie, il y a du nouveau qui arrive. Donc, la terre est définitivement plus fertile. Donc, ça fait que pour l'agriculture et tout ça, c'est super. Tout ce qui est céréales, le pain, hein, on sait que la France, le pain, c'est quelque chose. Hein. Oui, vraiment, depuis cet incident-là, depuis qu'ils se sont reconstruits, ils ont vraiment vécu une belle petite période de prospérité. Vraiment, ils ont pu... le terme m'échappe, mais ils ont su se relever de ça. Et puis, depuis ce temps-là, je dirais que c'est vraiment une petite région qui est vraiment le fun à visiter. Très pittoresque, très cute. Puis, en même temps, ils ont su, comme je te dis ça, ils ont su se relever de cette tragédie-là. Donc, ils vont pas fixer sur le triste. Ils vont la commémorer et tout, puis se rappeler des gens qui sont plus là. Mais ils voient ça comme un beau nouveau départ et ils célèbrent le fait qu'ils ont su se relever. C'est des bons vivants. Ils ont des beaux petits festivals. Ils ont des des beaux petits parties puis tout.
Il doit savoir du plaisir quand même.
Oui, oui. Ben, les Français sont connus pour ça. Que même si les plus gros, les plus grosses choses leur frappent dedans, ils savent se relever et tout. Puis c'est une section un petit peu recluse, donc c'est vraiment très campagne. Donc, vraiment, effectivement, un spot à visiter, malgré le petit côté sombre de l'histoire. Mais c'est vraiment un super beau petit côté, belle petite place à visiter quand on va en France.
Ah, c'est parfait. Alors, on peut dire qu'on peut le résumer par le proverbe « À chaque tragédie, songe à chair ».
Ouais.
Oui. Alors, il cultive le bonheur malgré la tragédie. Il cultive les champs, il cultive tout.
Ben, c'est sûr que si les gens sont brûlés, en grès, oui, on cultive dans les gens aussi.
Alors, on mange des atomes des...
Oui, on est toujours satisfait de savoir que nos tomates goûtent un peu, ben donc ferment.
Notre ascendance, oui.
Oui, oui, pourquoi pas. Pratique.
Alors, pourquoi pas, comme on dirait.
Ben oui.
Alors, je te remercie pour cette chronique.
Ben, ça fait plaisir.
Alors, on va y aller avec Tester Alpha qui va nous tirer aussi un dé dans la face. Alors, c'est ton choix. T'as ton choix entre ça ou juste faire une chronique humoristique.
On va y aller avec technologie.
Ah, OK.
Moi, je vous parle de l'artisan fromager.
Oh!
C'est concept!
C'est intéressant parce que l'artisan fromager, c'est un concept de flou. Oui, on penserait des fois à artisan fromager, c'est la personne qui fait du fromage. Il y a un peu de ça, mais on ne s'est jamais posé la question. Mais coudonc, qui c'est qui a inventé ça? Finalement, l'artisan fromager.
Oui, c'est vrai. Il faut qu'il y ait un créateur comme les vampires.
Ben,
il en faut un alpha.
C'est-tu passé de bouche à oreille? Ou bien si ça a été un grand inventeur technologique qui s'est dit qu'il me semble que pour faire du fromage, ça prendrait un artisan fromager.
Oui.
On ne sait pas. On sait pas. Puis là, il y a un homme, un moment donné, qui est arrivé. Pis c'est drôle, tantôt, tu parlais de M. Émile.
Oui, Émile.
Ben, l'homme qui est à la base de l'invention de l'artisan fromager, lui, c'est particulier parce qu'il est né en plein dans sa date de fête.
Ah oui?
Ben, c'est spécial.
Ah, ça, c'est les liens
c'est
de même,
spécial.
C'est malade.
Ah oui, oui. Puis là j'ai l'impression de prendre un détour, mais non, il faut pas. Restez avec moi, vous allez comprendre son cheminement personnel. Il faut bien comprendre que lui, un moment donné, est en train de cultiver son champ, du blé. Là, sa mère grand l'appelle. Okay. Puis sa mère grand lui dit, « Mon jeune... La viande que tu as congelée une fois, tu peux pas la recongeler. »
Non, non, ça, il faut pas.
Là, le message était clair. Fallait qu'il aille se faire baptiser.
Ouais.
Fait qu'il est allé se faire baptiser. Mais c'est quand qu'il est arrivé pour se faire baptiser qu'il a réalisé qu'il a besoin de technologie dans ce monde.
Oui.
Au même fait que là, il s'est mis à chercher des idées, tu comprends? Puis Colin, c'est là que l'idée y est apparue, artisan fromager.
Artisan fromager et technologie, ça vient ensemble?
Ben oui, c'est l'un va pas sans l'autre.
Non, c'est ça. Il fallait créer une culture de bactéries comme on peut créer des actets dans l'informatique.
C'est ça, c'est ça. Fait que là, il savait pas trop par où commencer, tu sais. Fait que là, il demandait à ses amis, qui sont des grands technologues. Puis là-dedans aussi, tu sais, technologue, t'as plein de branches, t'as des spécialités. Mais là, il y avait pas d'artisan fromager, ça existait pas, tu comprends? Il était en train de l'inventer.
Non, c'est ça, il fallait qu'il l'invente.
C'est ça.
Il était précurseur dans le domaine.
C'est ça.
Un vrai avant-gardiste, oh, oui. Là.
Fait que là, il est allé voir un artisan en fer à manger, comprends-tu?
Okay.
Fer à manger, du fer pour manger, parce que tu sais, ça prend du fer pour.
Ouais, ça, il faut avoir du fer dans le corps.
Ça
un peu comme
fer.
L'invention dernièrement avec le petit poisson que tu trempes.
Exactement.
Dans la
soupe, oui. Fait que là, il est allé voir son chum, et toi, t'es un pro de fer à manger, mais son chum, il était dur d'oreille, tu sais.
Okay.
Fait qu'il a mal compris.
Il y avait de l'étain dans l'oreille.
C'est ça, exactement. Lui, il était plein de fer et d'étain. Aussi, c'était son sideline. Et il a mal compris. Il a compris artisan fromager, et là, notre inventeur a dit. C'est ça!
C'est ça,
C'est ça, t'es un génie artisan fromager! Fait que là, tout de suite, il est allé se trouver des grandes cuves de métal. Puis là, il a commencé. Il a mis des bactéries. Puis il a regardé ce que ça donnait. Là, il s'est dit, bon, je vais rajouter du lait, tu sais, ça se trouve pas.
Tant qu'à y être,
Tant qu'à y être, tu sais, il va y avoir des bactéries là-dedans.
Ouais.
Puis c'est là que le premier fromager est né.
Ah.
Et notre homme de fil en aiguille est devenu le premier artisan fromager.
Ah.
De fil en aiguille, à chaque fois qu'il retournait voir son ami, qui comprenait tout croche, il ressortait de là grandi, avec des nouvelles idées.
À chaque fois, c'était comme un grand sage.
Ah oui, absolument.
C'est vraiment super inspirant comme histoire.
Oui, oui, ça arrêtait pas, là. Je vous dis, la fois d'après, quand il est revenu, il a pensé, hey, coudonc, dans ma grosse cuve de métal, je pourrais mettre un pédalier qui m'aiderait à mieux mélanger mon lait. puis les bactéries. Yeah. Fait qu'il s'est installé une espèce de bicyclette avec un pédalier directement dans la queue.
Direct.
Il a pédalé là-dessus pendant 7 jours, 7 nuits, sans arrêt.
Parce que je crois aussi que dans sa jeunesse, il avait écrasé le raisin pour faire du vin, alors il savait que le moteur humain pouvait servir.
Absolument, absolument. Et là, on dit, la légende dit qu'il aurait créé le fromage de Dieu, tu comprends? Ah 7 oui, jours, ah, 7 nuits.
Ah oui.
Ah oui, okay. On fait des liens, là. On oh, fait des oh, liens.
Ça sent bien.
Mais malheureusement, il y en avait en trop petite quantité pour la demande. Donc là, il a fallu l'étape d'après, tu comprends?
Créer un besoin.
Oui, oui, oui. Le besoin était créé. Donc, il y avait besoin là, de d'étendre sa production, d'avoir plus de cuves, plus de...
Mondialisation de...
Exactement. De Et là, l'artisan fromager s'est démocratisé de par le monde. Ah. Avec des pédaliers de plus en plus perfectionnés. Puis écoute, maintenant, là, tout le fromage qu'on mange, là, le fromage qu'on a mangé oh, tantôt, oui. Là, c'est directement dû à lui.
Alors, on peut savoir que notre petit fromage ici, qui était très délicieux en tant que gruyère fumée.
Absolument.
Il venait de son domaine, mais le ben fumé, oui. C'est lui qui l'avait créé ou c'est...
Non, le fumé, c'est que quand il pédalait trop vite...
Ah, ça fumait...
Ça faisait de la chaleur, okay. Là, puis le petit goût fumé, c'est ça, là. C'était,
okay, c'est le métal.
Finalement, c'est la friction du métal, friction, c'est okay. Ça, exactement.
Parce que le téflon n'était pas...
C'est encore. En plein ça. Ah. Puis son ami qui était dans le fer à manger, ben, il l'a aidé, tu comprends?
Ouais, c'est ça.
Même s'il comprenait tout croche, mais c'est pas grave, parce que c'était une relation mutuelle d'aide.
De toute façon, son ami, c'était le genre à acheter un collier en méthane.
C'est ça. Ouais. C'est ça, exactement. Puis chaque fois qu'il allait acheter un collier en méthane, il le retrouvait plus. Après, il est comme, voyons, c'est volatilisé, ce collier-là.
Ouais, c'est ça. Il était dans l'emballage, mais plus là.
Pouf! Plus là.
Est-ce que vous pensez que c'est à cause du collier en méthane que le fromage sent pas bon, des fois?
Ah, il y a des liens à faire.
Définitivement, hein.
On lance la piste pour les éditeurs scientifiques dans le domaine du fromage.
Ah, peut-être que notre artisan fromager a été inspiré par Émile.
Peut-être aussi.
Ah, certainement.
Parce qu'Émile, on sait que...
C'est un grand technologue.
Oui, c'est ça, il était présent dans plusieurs domaines.
Ben oui, ben oui. Je pense même que notre artisan fromager a gagné un prix Nobel.
Ah oui?
Oui, un prix Nobel de la paix.
Ah, j'espère, parce que le fromage amène la paix.
Ben oui, c'est très apaisant. En plus, tu pédales toute la journée sur ton pédalier dans le fromage. T'as plus le temps, après ça, de faire la guerre. T'es bien trop occupé. Voilà, c'est...
À chaque épuisement, c'est la guerre de fromage.
T'en plains ça.
C'est bon. Alors, je te remercie, Tarzan Alpha, pour cette chronique.
Aucun
et c'est
problème.
Tout, c'est qui concluait l'émission d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on peut vous contacter si on a besoin d'en savoir plus sur vous ou aller rejoindre vos chaînes?
J'ai ma chaîne YouTube, Testeur Alpha.
OK.
Sur YouTube, tapez Testeur Alpha. En principe, vous devriez me trouver directement.
Il n'y en a pas un million, il y en a juste
non,
un.
Non, c'est ça, exactement. Sinon, j'ai ma page Facebook aussi, Testeur Alpha. Ah, je fais mon tour quotidiennement.
Ah, alors, okay. Alors, tu réponds. Vite.
Oui, absolument.
C'est parfait. Hey, on a un Luduc.
Allô?
Allô?
Faut que j'en fasse les mêmes niaiseries comme dans la dernière fois?
Non, non.
OK. Oui, salut, c'est Charles. Raconte une joke à chaque 5 minutes, c'est la même. OK.
C'est une très bonne émission, ça. Alors, ceux qui connaissent pas Charles, ben, allez voir les autres épisodes des Informateurs. Il est là ou allez voir sur la chaîne de Luduc.tv. Et toi, Joe, comment est-ce qu'on peut te rejoindre ou te télépathiser des histoires réelles?
Ben moi, en fait, j'ai ma page Facebook, Joe, D-J-O-U. Vous allez me voir avec mes cheveux très colorés et beaucoup d'attitude. Sur ma page Facebook, je vais partager surtout des articles que j'écris pour l'Entrée du Geek ou les accros des jeux. Je partage aussi les vidéos de mes collègues d'un peu partout, que ce soit les accros, que ce soit l'Entrée du Geek et tout. Sinon, il y a mon projet YouTube qui s'en vient bientôt, mais c'est pas pour tout de suite. Mais j'en parle de temps en temps sur mon Facebook. Sinon, sur les autres réseaux sociaux, je suis là surtout sur Instagram, à commercial cœur _2_pixel au singulier. Vous allez voir tout, toutes mes petites sorties, mes petits projets, mes petites folies, geek ou pas geek, tout se retrouve là.
Alors, on peut en déduire qu'il était beaucoup branché.
Oui, moi, les réseaux sociaux, j'aime beaucoup ça. Et j'aime ça partager avec tout le monde, que ce soit, comme je disais, soit du geek, tout ce qui est lifestyle. J'adore la nourriture, je vais parler de nourriture, j'aime le burlesque, on va parler de burlesque, on va parler de plein de trucs.
Ah, c'est bon. Alors, tu es multifonction dans tous les domaines.
OK, oui, monsieur.
Et moi, c'est Christian Mel. Vous pouvez nous rejoindre sur les Informateurs sur Facebook, sur Twitter, sur Mixcloud. On est aussi sur iTunes, sur Google Play. On est aussi sur... j'ai tout dit, là. C'est YouTube aussi, mais c'est juste une version vidéo de, avec mes photos. Je vous invite à vous abonner pour avoir les épisodes directement dans votre appareil, automatiquement, avec tout ça. Mais si vous voulez nous rejoindre, ben, la meilleure façon, c'est Facebook. Alors, ajoutez-nous sur la page Facebook et amusez-vous comme vous pouvez. Alors, c'est tout ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui et notre dernier épisode au Extra Life organisé par Zero Lag Gaming. Alors, je vous dis à la prochaine et faites de beaux gros dodo, même si c'est le matin.
Bye bye!
Au revoir!
Bye bye!